France Inter. Le masque et la plume. L'émission du jour ne se déroule pas en public et au théâtre de l'Alliance française en raison d'un mouvement de grève contre le projet de holding pour l'audiovisuel public. Nous sommes donc en studio, à la Maison de la Radio, pour débattre des films sortis en salle ces 15 derniers jours. Et autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bourseiller, du magazine Transfuge et de France Inter.
Bonjour.
Charlotte Lipinska, de Télématin.
Bonjour.
Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles. Et Ariane Allard, de Positif. Au sommaire du masque, une chronique familiale réalisée par Baya Kasmi, l'arrivée en France d'un grand succès chinois sous un titre anglais, c'est Her Story, un biopic sur Frantz Fanon, un film d'espionnage avec Rami Malek et le dernier long métrage de Mike Lee, tel est l'éclectisme des sorties du masque de ce jour. C'est parti pour une heure de cinéma dans les oreilles. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est le film qui vous a fait le plus écrire cette semaine. Il connaît d'ailleurs un beau succès en salle. Je ne vais pouvoir vous citer que quelques-uns des courriers reçus. Pierre Cusor dit ne pas avoir boudé son plaisir pour ce feel-good movie de bonne qualité avec une prestation irréprochable de Leïla Bekhti. Si vous êtes plusieurs à regretter que les échanges autour de ce film aient parfois viré, je cite, à des disputes d'égo dignes d'une cour de récré, Caroline Olivier d'Antony apprécie néanmoins que certains aient livré leur a priori pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan avant de reconnaître les qualités du film. En revanche, vous avez été surpris, pour ne pas dire choqué, par les critiques négatives à l'encontre de Lire Lolita à Téhéran d'Eran Riklis, film sur le quotidien des femmes en Iran depuis la révolution islamique jusqu'aux années 90. Si Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence parle d'une mise en scène trop lisse, le mail de Dominique Delis de Paris me semble représentatif de l'ensemble des courriers reçus. Cet auditeur regrette le manque d'empathie des critiques et leur aveuglement face à un film qui réussit à faire partager les peurs et le courage de ces femmes. Et je vois Ariane Allard en face de moi qui opine du chef. Vous avez aussi aimé La Cache de Lionel Bayer et dernier film tourné par Michel Blanc. Arnaud Sanquer parle de la comédie la plus grave et la plus profonde de la semaine. Cet auditeur salue aussi, et il est loin d'être le seul, Vermiglio ou La mariée des montagnes de Maura Del Perro, preuve du renouveau du cinéma italien, un des plus beaux portraits de femmes qui ne verse jamais dans le film à thèse féministe, écrit Arnaud Sanquer. Enfin, pour terminer, alors que le film est sorti en salle il y a un mois, vos mails sont encore nombreux pour Parthénopée, dernier long métrage de Paolo Sorrentino, qui fait le portrait de la ville de Naples à travers la vie d'une femme. Blanche dit avoir manqué de s'étouffer en écoutant Le Masque, qui, selon elle, est passé à côté de la majesté des décors et des critiques acerbes de Sorrentino contre le clergé, la mafia et les riches. Grâce, gravité mélancolique et charnelle, film sortilège, nous écrit Violette Villard, qui conclut par « Capri, c'est jamais fini ». Et on commence avec Deux Sœurs, réalisées par l'un des vétérans du cinéma anglais, à savoir Mike Lee. Nous sommes dans la banlieue de Londres aujourd'hui, dans le quotidien d'une famille noire caribéenne de la petite classe moyenne, et tout est prétexte à la fureur de Pansy. La léthargie de son fils de 22 ans, les pigeons qui se posent sur son carré de pelouse, ou encore les vêtements à poche pour bébé, fallait le trouver, qu'elle a vu dans la rue. À l'inverse de Pansy, sa sœur Chantelle est une femme rieuse à l'écoute de ses filles et des clientes de son salon de coiffure. Le jour de la fête des mères, les familles de Chantelle et de Pansy se retrouvent. Si les deux sœurs ont un passé commun, elles ne l'ont pas vécu du tout de la même manière. Alors avec ce film, Mike Lee retrouve la comédienne Marianne Jean-Baptiste, 30 ans après Secrets et mensonges, hein, vous vous souvenez, Palme d'or de l'année 1996. C'est donc Marianne Jean-Baptiste qui interprète cette Pansy, femme en colère tout le temps, le jour comme la nuit. Est-ce que toi, ça t'a réjoui, Charlotte ?
C'est un sentiment, un film pardon, qui m'a laissé un sentiment assez ambivalent, c'est-à-dire que c'était pas très agréable à regarder. J'ai un peu souffert, je mets souffert entre guillemets. En tout cas, j'avais pas beaucoup de plaisir à voir le film. Et pourtant, je dois bien avouer que des jours et des semaines après, le film s'est vraiment imprégné en moi. Il m'est resté. Et si je dis qu'il n'est pas facile, c'est qu'en fait, quand même, pendant les deux tiers, voire les trois quarts, on subit un peu la colère de cette femme qui est très répétitive. Alors, qui en devient presque assez drôle et assez comique dans son effet de répétition et parce qu'elle s'en prend absolument à tout le monde, que ce soit ses proches, la caissière d'un supermarché, enfin quiconque lui adresse.
Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a du mal à la supporter.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que dès qu'on lui adresse la parole, elle aboie, quoi. Donc c'est une sorte de Tati Daniel en colère en permanence qui, au bout d'un moment, m'était assez désagréable et me devenait assez hostile. Et puis, quand même, sur la fin, sans que Mike Lee s'oblige à une quelconque explication des racines de sa colère, il y a tout d'un coup un peu un silence, un regard, quelque chose qui s'installe entre elle et sa sœur autour de la journée de la fête des mères, on va dire, qui du coup m'émeut assez et j'aime assez la radicalité avec laquelle Mike Lee ne nous donne pas d'explication au caractère de cette femme. Ça, je trouve ça très très fort et en même temps, vous savez, au cinéma souvent, on parle de payoff à la fin, c'est-à-dire une sorte de récompense pour le spectateur qui va être soit une explication, soit la chose qu'il attend qu'on nous donne. Et ben là, non. Donc il y a une sorte de frustration émotionnelle et pourtant, ben Marianne Jean-Baptiste, il y a quelque chose des replis de l'âme quand même, qui se dévoile et que je trouve assez émouvant.
Frustration au point qu'à un moment, on se dit, enfin, à l'issue du film, on peut se dire aussi, oh là là, mais tout ça pour ça.
Oui.
Et finalement, c'est vrai que le film
mais
reste en tête.
Mais en fait, ça infuse, quoi. Ça infuse vraiment beaucoup.
Christophe.
Oui, alors il semblerait que sa douleur provienne du fait qu'elle a perdu sa mère. Enfin, c'est une sorte de deuil qu'elle n'arrive pas à surmonter. Moi, j'aurais appelé ce film
ça,
L'une chante l'autre pas.
Ouais.
Bah, c'est mon interprétation, non, c'est une clé, mais j'assume.
Ouais, c'est une clé. Lourdement asséné, moi,
c'est lourdement asséné dans le film. Donc, il me semble que c'est quand même pour ça qu'elle est mal. Alors maintenant, j'aurais appelé ça, moi, l'une chante l'autre pas, parce qu'il y en a une, évidemment, Marianne Jean-Baptiste, qui ne chante pas, et l'autre qui chante, au contraire, qui est plutôt joyeuse, sa sœur, qui vit beaucoup mieux cette situation pénible. Moi, j'ai connu un type comme ça, qui souffrait de la même maladie que Marianne Jean-Baptiste dans le film, c'est-à-dire qui insulte tout le monde. C'est une maladie mentale, on ne peut pas s'empêcher d'insulter les gens.
Non.
Ça existe vraiment.
Non, mais non, parce qu'on peut voir ça non, aussi mais... comme une sorte de dépression hostile, parce qu'elle est aussi
non,
quand même
beaucoup plus que ça.
Parano, irascible, ultra maniaque.
Non, mais c'est beaucoup plus
que
ça. Mais
on se pose la question de la maladie mentale.
On est dans un cas psychiatrique, ouais, à mon avis.
Oui,
on
oui.
est dans un cas psychiatrique. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que celle qui ne chante pas, si je puis dire, elle est puissance 1000. Et comme elle a des réparties extraordinaires, parce qu'en plus, en plus d'insulter tout le monde, elle le fait, il y a des dialogues formidables. On commence par sourire. Et puis, enfin, à un moment donné, ça devient agaçant, puis lassant. Puis insupportable, parce qu'en fait, elle paraît incurable, parce qu'elle rit en pleurant, donc c'est un signe d'extrême dépression. Elle est auto-centrée sur son chagrin de manière totalement égoïste.
Mais là, tu fais de la psychologie, c'est tout le contraire
bah oui,
de ce que
mais
fait
c'est
Mike Lee,
c'est en tout cas, c'est...
Ouais,
c'est un cinéaste de la faille.
Ariane, c'est une mise en scène qui
si, parce que c'est un cinéaste de la faille, Mike Lee. C'est un cinéaste de l'impossibilité des rapports humains, semble-t-il.
Non, attends, Ariane. Je pense que ce qui est intéressant dans ce film, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu sur un mur un collage qui m'a semblé synthétiser parfaitement ce film. Sur ce mur, il y avait écrit « Ne pas être en colère est un privilège ». Et moi, je pense que ce film raconte exactement ça. C'est le portrait d'une femme qui n'a jamais goûté au privilège de ne pas être en colère. Et Mike Lee, je pense qu'il fait un geste profondément politique en filmant cette femme de façon très radicale. C'est-à-dire, il n'y a pas une once de gras dans sa réalisation, il n'y a pas une once de sentimentalisme. Mike Lee, il a souvent été comparé à Ken Loach parce qu'il parle un peu des mêmes gens,
ces
petites gens. Or, mais Ken Loach, ces derniers temps, c'est beaucoup un petit peu aventuré vers le côté sanctification de ses personnages, etc. Mike Lee, jamais. Il ne donne aucune raison, ou très peu. Moi, je trouve que tu analyses ça d'une façon complètement déterministe.
C'est ma façon d'analyser, mais moi,
Laisse-la finir, s'il te plaît.
On voit une femme fatiguée, noire, je pense que c'est un indice aussi, plutôt âgé, qui vit dans une petite banlieue, comment dire, de la petite classe moyenne. Tous ces éléments, on les additionne, on essaie de comprendre ou pas, on reçoit cette colère en pleine gueule. Effectivement, ça n'est pas un film aimable, mais comme Charlotte le dit, c'est un film qui reste en mémoire. Et je trouve, moi, super intéressant le geste que fait Mike Lee en ne nous donnant aucune facilité, aucune douceur et aucune explication.
Christophe ?
Alors moi, j'ai trouvé ce film très intéressant, je tiens à le dire. Simplement, ça n'a rien à voir avec Ken Loach, je ne vois pas de propos social. C'est un film sur la faille, sur l'impossibilité des rapports social, humains. Non. Et ce qui est intéressant chez Marianne Jean-Baptiste, c'est que c'est une douleur épouvantable parce qu'elle massacre psychiquement tous ceux qu'elle entoure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de carnivore. Et moi, ce film pour
c'est
moi...
Je l'aurais appelé
le malheur assassin.
Donc là, tu as deux titres, hein, mais oui. Ça s'intitule Deux
Sœurs. L'une chante, l'autre pas, et Le malheur assassin.
Pour moi, c'est à la fois un film politique, mais aussi un film sur une psychopathologie.
Oui.
La dimension politique du film, c'est comment, effectivement, des conditions sociales, l'identité racisée du personnage, produire une maladie, quand même.
Mais son sujet, c'est vraiment sa pathologie. Et moi, je pense que ce qui est
assez beau, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose de très clinique, quand même, dans son regard, mais aussi de l'empathie. Il y a un équilibre assez fort là-dessus sur la manière dont au scalpel il scrute les mouvements psychiques les plus souterrains du personnage et en même temps il n'est pas non plus seulement dans la posture de quelqu'un qui l'étudie, il y a aussi une proximité émotionnelle au personnage.
Je pense que ça vient aussi beaucoup de l'incarnation, c'est-à-dire
qui est très très bien. Mais pour moi malgré tout la réserve que j'ai sur le film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux temps de ce trouble psychique. Il y a la phase maniaque où elle est incessamment en colère, hyperactive, dans un désir de contrôle. Et là, moi, un peu contrairement à ce que tu disais, Charlotte, je trouve que Mike Lee, toi, tu disais que tu trouvais ça extrêmement désagréable. Moi, je l'ai vu dans une salle où les gens riaient beaucoup. Et ce souci, on a un peu l'impression, tout à coup, que sa maladie est faite pour amuser la galerie. Il y a une dimension humoristique qui m'a un petit peu gênée.
Ça m'a pas fait rire. Des
fois, les gens rient parce qu'ils sont mal à l'aise.
C'est possible aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est une dimension humoristique qui m'a gênée. Mais par contre, lorsque tout à coup, il y a l'effondrement, la manière dont le film est gagné par le silence, son art vraiment du gros plan en scope, ça produit vraiment quelque chose de très fort, l'usage comme ça très intimiste du gros plan, mais la puissance plastique du scope, c'est quand même un grand film de mise en scène, donc je le trouve quand même assez puissant.
Et la souffrance de son fils et de son mari qu'elle massacre aussi, il faut bien le dire.
Après Deux Sœurs de Mike Lee, on passe à un autre portrait de famille avec Mikado de Baya Kasmi. Mikado étant le surnom du personnage principal. Mikado et Laetitia, Félix Moati et Vimala Ponce à l'écran, vivent dans un van avec leur fille adolescente et leur petit garçon. Aucun des enfants n'est scolarisé et ils se planquent sous la banquette arrière du camion lors d'un contrôle de police. Cette famille a l'air en fuite, mais elle s'arrête pour venir en aide à un homme tombé en panne en bord de route. Il s'appelle Vincent, il est prof, veuf, et vit seul avec sa fille ado. Vincent, joué par Ramzi Bedia, va accueillir Mikado et les siens dans son jardin et il leur ouvre sa maison familiale pour quelques semaines. Commence alors une cohabitation où la femme de Mikado goûte les plaisirs d'une vie plus douce et sa fille se met à rêver du quotidien des ados de son âge, c'est-à-dire aller au collège et avoir une bande de copains. Cette jeune fille est interprétée par Patience Mouchenbach et le film adopte son point de vue à plusieurs reprises. Christophe ?
Ah ben moi j'ai été très touché par ce film. J'avoue que c'est un film qui je l'appellerais sans toi ni loi.
Toi t'as décidé aujourd'hui. Tu refais tous les titres.
Je trouve que c'est un film qui est
distributeur.
Sans toi ni loi, Agnès Varda. Je trouve que c'est un film. D'abord il y a plusieurs choses. D'abord l'image magnifique. Cette façon de filmer la Provence indifférente au tourment des personnages.
En été.
Et puis surtout ce qui m'a beaucoup touché, c'est les acteurs. Félix Toiti, tu l'as dit, Prudence Mouchenbach, Vimala Ponce, Ramzi Bedia, parce que Baya Kasmi, c'est une remarquable directrice d'acteurs. Elle a tout compris au cinéma, Baya Kasmi. Elle sait que tout se joue dans la maîtrise des passions, dans le niveau sonore et dans l'intensité. C'est-à-dire que tout est joué du côté de la retenue, du côté de la pudeur, alors que ce sont des situations terribles. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve que ça donne un film vraiment magnifique, très émouvant, très puissant. Et puis, pour moi, c'est le film politique que j'aime, c'est-à-dire le film qui donne à réfléchir, le film où on écoute. doute, la souffrance sociale, comment s'en sortir, comment exister. Ce sont des personnages très vrais, très touchants. C'est tout sauf un film militant, ça donne à réfléchir et c'est superbe.
Jean-Marc.
Non, je suis moins enthousiaste que Christophe. Oh. Moi, je trouve le film effectivement attachant, touchant par endroits, mais comme un peu bancal. C'est très personnel, mais j'étais gêné par la présence de notre film qui hante ce film-là, et qui est un film que j'adore, qui est À bout de course de Sidney Lumet avec River Phoenix.
Elle le revendique,
le film commence quasiment pareil, avec un flic qui rôde. Donc on pense beaucoup au film de Sidney Lumet, même le prénom du personnage de l'adolescente qui s'appelle Nuage, ça fait vraiment penser au prénom d'éléments naturels de la famille Phoenix, River, etc. Donc on a le sentiment que ce film est hanté par un autre qui est quand même dramatiquement beaucoup plus fort et beaucoup plus complexe sur les personnages. Donc voilà, je trouve que le mot modèle écraser un peu le film. Après, il y a des choses réussies, notamment quand même ce que fait Félix Moati, c'est quand même assez puissant. On a rarement eu accès à son intériorité comme ça. Il y a vraiment une intensité dans ce qu'il fait. Et du coup, le film est vraiment fort lorsqu'il se recentre sur lui. Par exemple, la scène de retrouvailles avec sa mère, c'est une scène assez intense dramatiquement. Je trouve que l'interaction avec les personnages de bourgeois éduqués, les deux personnages donc de Rabzi Bedia et de sa fille, sont quand même pas très passionnants. Et donc, du coup, le film est quand même assez bancal.
Formidable.
L'interaction entre les adolescentes, entre l'adolescente qui est complètement déscolarisée et celle qui est va au collège,
c'est l'effronté. On y pense beaucoup. Il y a quand même même une scène où elles sont avec un grand miroir sur un arbre à essayer des choses, c'est-à-dire l'admiration d'une adolescente vers une autre. Il y a un peu quelque chose de l'effronté à cet aspect-là.
Sauf que là, il ne s'agit pas de piano, mais du plaisir d'aller au collège, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
C'est d'intégrer un groupe, un collectif, c'est ça l'idée.
Et il y a un plan très furtif d'ailleurs où cette adolescente enserre le pilier de cours du collège. Ça dure assez peu.
Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. J'aime bien le fait. Tu parlais du point de vue de temps en temps de la jeune fille. Oui, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que elle essaie, Baya Kasmi, et je trouve qu'elle le réussit assez bien à imbriquer deux points de vue, c'est-à-dire celui de l'adolescente et celui du père. Évidemment, et c'est des points de vue qui se confrontent, qui s'affrontent, mais qui finalement se réunissent. En fait, c'est le jeu du Mikado, c'est-à-dire que ça s'imbrique comme les petites baguettes du jeu, et je trouve ça assez fin. Moi, j'étais surprise, et je trouve quand même, c'est une première fois pour Baya Kasmi de s'aventurer vers le mélodrame, parce que le sujet, c'est quand même l'enfance maltraitée, c'est un sujet super dur, et je trouve qu'elle
sachant que son registre jusqu'à présent était celui de la comédie
un peu espiègle, etc. Mais malgré tout, les thèmes qu'elle agite ici, c'est quand même toujours l'idée de faire famille autrement, et ça a hanté tous ses films, même ses comédies. C'est l'idée aussi du mélange, donc c'est pour ça que voilà, la confrontation elle est un peu asymétrique, on est d'accord, entre les deux familles. Et puis moi j'aime bien, tu parlais de la mise en scène, c'est quelqu'un qui porte un regard sur ses personnages toujours bienveillant. C'est comme une grande sœur, en fait, je trouve, Baya Kasmi, quand elle regarde ses personnages, quelque chose de l'ordre de la chaleur et de la générosité.
Et de la tendresse.
Et de la tendresse. Et ce regard-là nous permet justement de nous projeter, de nous identifier sur une histoire qui est quand même profondément âpre. Voilà. Et je termine sur les comédiens parce que vous avez beaucoup parlé de Félix Moati. Moi, je trouve Vima la Ponce et depuis plusieurs films. On l'a beaucoup estampillé très longtemps dans un registre burlesque. Ouais. Voilà, elle vient du cirque, elle vient du théâtre, elle est un peu faux-folle. Là, ça fait 2-3 films, notamment avec L'Attachement et maintenant celui-là, où elle compose des rôles plus dramatiques. Mmh. Et je la trouve absolument remarquable. C'est elle qui conduit le camion dans le film, au sens propre comme au sens symbolique. Et je trouve qu'elle le fait super bien.
Et Rabzi Bedia, qui est totalement à contre-emploi.
Et c'est quand même
des
comédiens qu'on revoit dans tous les films de Baya Kasmi, je voulais le dire ça aussi. Tu dis que c'est une grande directrice d'acteurs. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui a un sens du collectif et de la troupe et qu'on retrouve, parce que tous ces comédiens, que ça soit Vimala, que ça soit Félix, que ça soit Rabzi, c'est des comédiens qui sont là depuis les premiers films, voire les premiers courts-métrages de Baya Kasmi.
Cela dit, l'accueil presse du film est assez mitigé. Hein, Charlotte
je rejoins complètement Ariane parce que d'abord, effectivement, entre l'âpreté, la dureté de ce que traversent les personnages et d'où ils viennent est contrebalancée par cette chaleur du sud, par le soleil, c'est-à-dire qu'on n'est clairement pas dans un drame social où elle va mettre du gris sur du gris. Donc il y a quelque chose comme ça de la chaleur de l'été qui semble alléger un peu cette rencontre improbable entre ces deux familles, qui va quand même s'équilibrer dans un échange tacite, c'est-à-dire que ce Vincent prof offre un peu de confort de vie et des équilibre, et à l'inverse, la famille de Mikado va amener un peu de fantaisie, de liberté dans la vie de ce prof, et de sa fille. Et je trouve là, c'est comme un contrat tacite qui n'est jamais explicité, qui est vraiment très joli dans le film. Comme le disait Ariane, le cœur du film est quand même le sujet de l'enfance brisée qui donne des adultes un peu cabossés et que malgré l'amour que l'on peut avoir et donner aux siens, il y a quelque chose de vraiment fondamentalement cassé sur ces êtres-là et qu'il va falloir quand même, comme Ariane le disait, l'intervention des femmes et en l'occurrence Vima Laponce, parce que c'est elle en fait qui en sous-couche va redonner une structure à tout ça. Moi, je trouve le film vraiment très touchant. Et là où je vous rejoins aussi, c'est les acteurs, quoi. Mmh. C'est-à-dire que Ramzi Bedia, après Youssef Salem, a du succès, où déjà on s'extasiait tous sur la façon dont Baya Kasmi l'avait dirigé, et bien là, il est encore dans un autre registre, et on sent qu'il y a une fidélité de cette troupe d'acteurs et une confiance entre eux pour les amener vraiment très loin, à commencer par Félix Moati.
Après Mikado de Baya Kasmi, on va enchaîner avec l'un des plus grands succès récents du cinéma chinois. Il s'agit de Her Story, deuxième long-métrage de la réalisatrice Shao Yiwei. En Chine, le film a rassemblé 17 millions de spectateurs, surtout des spectatrices, je crois d'ailleurs. Et le film est arrivé dans les salles françaises cette semaine. Her Story met en scène un trio de femmes de différentes générations dans la Chine d'aujourd'hui. Tie Mei, qui a 50 ans, et tente de refaire sa vie à Shanghai. Elle est mère célibataire et vit donc seule avec sa fille de 12 ans, Molly. Tie Mei et Molly ont pour voisine une jeune chanteuse qui cherche l'amour sur des applis de rencontre. Et en regard de ce trio de femmes qui s'entraident, il y a trois hommes, amants et ex-maris, Pato,
ah oui,
qui tentent de comprendre tant bien que mal ce qui leur arrive, les pauvres, depuis la révolution MeToo. Et pour parler du film, la presse a parfois repris la com, hein, en parlant de Barbie chinois, la référence au Barbie de Greta Gerwig étant vraisemblablement utilisée désormais comme un label féministe international. Ariane, tu fais la moue?
Oui, non, Barbie, je vois pas trop le rapport.
J'ai pas trop compris non plus, mais on l'a tellement lu partout.
De galérer dans la vie, voilà, je sais pas. Donc, non, je pense que c'est surtout ça s'inspire énormément des rom-coms hollywoodiennes, mais faites au kilomètre, un peu formatées. Donc il y a un effet de curiosité, parce qu'on se dit ça se passe à Shanghai. Les héroïnes, il y a une qui est journaliste, l'autre qui est chanteuse dans un groupe de pop indie. C'est des choses qu'on voit quand même très rarement dans les films chinois. Donc ça suscite en tout cas la curiosité. C'est très joli, c'est très délicat. Ça dresse le portrait d'une nouvelle génération de femmes chinoises aussi, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le souci, c'est que je trouve que ça dépose peu, hein, contrairement aux autres films dont on vient de parler.
Que ça dépose peu.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a regardé, on est séduit, puis après ça s'évapore. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le charme. C'est très pop aussi pour ça. La musique est pop, les comédiennes sont jolies, elles sont joliment habillées, elles habitent dans des vieux immeubles absolument charmants, un peu désuets.
Très bohème.
Voilà, c'est le côté bohème,
c'est un peu
côté bobo.
Le bobo chinois.
Le bobo chinois. Bah, d'ailleurs, c'est à Shanghai, je crois, c'est considéré comme la grande ville bobo. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas désagréable, mais que c'était un peu insipide. Et surtout, je trouve que ça manque un peu au bout d'un moment, peut-être à cause de ce modèle américain que je trouve quand même très prégnant, ça manque un peu d'authenticité.
Christophe?
Bah pour un film chinois, c'est pas très chinois, parce que les Chinois nous envoient une sorte de message de regarder comme on est comme les Américains finalement. Alors je sais pas si c'est dans la période actuelle tellement judicieux. Bah, imaginez un épisode d'Hélène et les garçons qui dure plus de 2 heures. Ça résume le propos, quoi. Donc
c'est comme ça que tu l'as vécu.
C'est du bubble tea à la framboise, donc c'est assez sympathique. C'est-à-dire c'est des petits jeunes gentils, des trentenaires. Ils sont sur TikTok, ils adultent Taylor Swift. Ils montent un groupe de rock mou comme dans Hélène et les garçons. Ils montent un groupe de rock mou. Là, j'ai retrouvé
en
beaucoup de ressemblances.
Jeunesse insouciante.
Non, mais c'est une jeunesse insouciante, ludique, positive, tout ce que vous voulez. Alors, on se pose quelques petits problèmes de l'heure, du genre les garçons, les filles, comment on fait? Donc, c'est normal, parce que c'est l'époque qui veut ça. On se pose des petites questions, mais enfin, pas trop loin quand même. Hein. Je veux dire, l'homme se déconstruit un tout petit peu. Je vais me déconstruire peut-être pas. Ah, je suis quand même un peu macho. Et puis, les nanas, oh, il est beau. Enfin, vraiment, on est dans un truc très beau.
Mais les dialogues aussi.
Oui, je vous fais les dialogues aussi. Si, alors si j'ai voulu être un peu caustique vis-à-vis de la presse féminine, mais je ne le serai pas, parce que j'aime beaucoup Elle et Marie-Claire, je tiens à le dire, mais on dirait un article de Elle ou de Marie-Claire sur les jeunes chinois, les mamans solo, la jeunesse en Chine et la condition féminine dans la Chine contemporaine. Apparemment, les Chinoises aujourd'hui sont plus libérées que les Américaines.
Le personnage est journaliste, d'ailleurs.
D'ailleurs, ce n'est pas un hasard.
Je dirais que c'est un. Il y a quelques dialogues étonnants sur son métier de journaliste, parce qu'elle était ancienne.
C'est
propos du film. C'est voilà. la difficulté ouais. qu'il y a à être journaliste et à faire un travail d'information aussi, ouais. et effectivement la question de la charge mentale ouais. dans la Chine.
C'est le seul truc un peu intéressant.
Juste...
Non, juste deux secondes.
En oubliant toute forme de censure, j'ai dit.
Non, moi je vous trouve sévère. Effectivement, le charme du film, il est un peu volatile. C'est pas un film par lequel on est travaillé très longtemps après, mais moi j'étais extrêmement séduit et très étonné d'avoir le sentiment. Alors moi je citerai pas Hélène et les garçons, mais je citerai une autre série qui a une plus grande dignité esthétique, c'est Girls de Lena Dunham. C'est-à-dire que par moment, voilà, par moment, ces gens vivent vraiment comme s'ils étaient à Brooklyn et je ne savais pas en fait qu'on pouvait vivre comme ça en Chine, et ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, cette information-là, parce que nous on connaît du cinéma chinois soit un cinéma d'auteur qui filme plutôt les exclus de la domination économique, enfin de l'exclusion économique, comme Jie Zhangke, Bigan, ou alors un cinéma de fresques historiques, de blockbusters qui travaillent sur de la mythologie, mais cette classe moyenne cultivée, on la voit pas, et son mode de vie qui est très séduisant, et aussi les difficultés des personnages à vivre ça, leurs interrogations, moi je trouve que ça passe de manière assez belle dans le film.
Cela dit, tu fais la comparaison avec la série Girls de Lena Dunham, qui était quand même beaucoup plus sexuelle et
transgressive.
Oui, transgressive. Enfin, il y a quand même aussi des interrogations sur la même, sur les rapports homme-femme aujourd'hui.
Christophe ?
Non, je disais, c'est quand même Emily in China.
Oui, mais effectivement, c'est un film chinois, donc forcément, il y a une censure plus forte, mais quand même, la tentative d'outrepasser ça pour se rapprocher de quelque chose qui serait de l'ordre de Girls of Lendenham m'intéresse.
Charlotte ?
Évidemment que les curseurs ne sont pas au même niveau, c'est-à-dire que... Il y a quand même une scène de repas à table où les filles parlent de leurs règles, et ça, on peut se dire que pour un film chinois, c'est certainement peut-être une grande subversion.
D'ailleurs, les garçons répondent « Ah bon, mais moi, très longtemps, j'ai cru que les règles, c'était bleu. »
Oui,
parce que
c'était bleu.
C'est comme ça qu'on me le montrait dans les pubs.
C'est un peu allégé par une sorte d'humour, parce que c'est pas non plus très très drôle ce qui se dit. Moi, mon problème, c'est que le film, effectivement, parle beaucoup de la place des femmes célibataires, la sororité entre elles et tout, mais alors... Tout clignote dans le film, c'est-à-dire ça n'est pas le message, ils sont pas passés subtilement, ça y va avec des pieds de plomb. Tous les dialogues et les situations sont extrêmement explicites sur le sujet, donc tout est stabilo-bossé en fait sur cette question de l'amitié féminine, de la place des femmes.
Mais ça n'empêche pas les personnages d'exister, c'est-à-dire qu'ils sont pas juste les porte-parole d'une problématique sociétale, je trouve qu'ils sont
mais ça manque de finesse quand même, Jean-Marc.
Je trouve pas nuancé, je trouve que c'est du sitcom.
Alors c'est un peu
c'est des gros
pop,
balours, un peu
d'une manière extrêmement drôle.
Moi je trouve pas.
Alors après quand même le film fait 2 heures. Moi j'avais l'impression de voir un unitaire de plateforme. Ça fait un peu quand même téléfilm Netflix, un peu pop, un peu girly, un peu jolie, parce que en effet elles sont toutes belles à tomber. Moi je vais quand même m'attarder un petit peu sur le personnage de la petite fille Molly. Elle a 9-10 ans et c'est elle qui a toutes les punchlines du film, parce que évidemment c'est la petite qui a déjà tout compris,
c'est l'avenir.
Et c'est l'avenir, donc là ça ouvre vers une perspective assez heureuse.
Après Her Story de Shao Yui, on va parler maintenant de Fanon, troisième long métrage de Jean-Claude Barni et tout premier film de fiction consacré à Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, figure majeure et pourtant pas si connue de la pensée décoloniale, dont on fêtera le centenaire de la naissance en juillet prochain. Ce biopic s'intéresse aux années algériennes de Fanon, c'est-à-dire aux années où il est nommé chef de service de l'hôpital psychiatrique de Blida, un an avant le début de la guerre d'indépendance d'Algérie. Nous sommes donc en 1953. En arrivant, Frantz Fanon s'attire d'abord les foudres du directeur de l'hôpital, Olivier Gourmet à l'écran, en s'opposant aux mauvais traitements réservés aux patients algériens. Jean-Claude Barni met en scène les horreurs commises par l'armée française, l'engagement de Fanon auprès des Algériens, les luttes meurtrières au sein du FLN et la pensée de Fanon qui écrit à ce moment-là Les damnés de la terre. Fanon est interprété par Alexandre Bouillet, Déborah François joue son épouse et Stanislas Mérard campe un militaire tortionnaire. Bien que le film soit peu distribué en salle, il rencontre son public. Jean-Marc.
Moi, je trouve que le film est vraiment une occasion manquée et qui n'est pas du tout à la hauteur de la puissance de son personnage. Et il y a quelque chose d'une force visionnaire chez le personnage, d'avoir vu des choses, d'avoir été en avant sur son époque, que le film dessert totalement par une forme qui est d'une platitude, d'un didactisme extrêmement scolaire, où tout est très très appuyé, là, pour le coup. Et je pense que c'est une très mauvaise idée aussi d'avoir construit le personnage comme une sorte de porte-parole de la pensée de Fanon. C'est-à-dire que vraiment, ses dialogues sont truffés de phrases qui sont jouées de manière extrêmement récitative. On a le sentiment
assez
vraiment
solennel.
Voilà, c'est très pontifiant, très solennel. D'où le sentiment d'un défaut d'incarnation vraiment très important et très, très problématique. Il y a quelque chose d'assez troublant aussi, c'est que pour un film dont le désir est vraiment de déconstruire tous les protocoles de domination, il y en a un qui déconstruit pas du tout, c'est le sexisme quand même.
Je trouve que vraiment,
il y a quelque chose. Toute la première partie sur le personnage de l'épouse de Fanon, c'est vraiment très gênant. Toutes ces lignes de dialogue, c'est les invités sont arrivés, il est tard, vient de coucher. On se dit, il n'y a aucun regard porté sur cette dissymétrie. Et lorsque tout à coup, elle participe au processus créatif, oui, mais c'est un peu à la place de la dactylo. Et je trouve que le film n'est pas du tout au bon endroit dans l'étude de cette relation-là.
On sent quand même qu'elle continue d'entretenir sa détermination dans le rapport.
Moi, j'ai l'impression qu'elle est une interlocutrice.
Avec Fanon.
Qu'elle est la première interlocutrice de
Ariane.
Fanon. Alors, c'est peut-être aussi parce que je sais, par ailleurs, après la suite de la vie de cette femme, après la mort de Fanon, qui est restée vivre en Algérie, qui a été vraiment une femme engagée, etc. Mais voilà. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-Marc. C'est pas le chef-d'œuvre du siècle, on est bien d'accord. Après, moi, je me dis qu'étant donné que Fanon est quand même très peu connu en France, alors autant en Algérie, c'est vraiment un héros, et voilà, il est enterré là-bas en plus, et c'est quand même quelqu'un qui est quand même, je pense, a eu un apport considérable quand même dans la pensée sur la colonisation et surtout la décolonisation. Je trouve que c'est, même si le film, il est un peu raide, moi je trouve surtout d'une grande raideur. Alors, est-ce que c'est parce que le personnage lui-même exhalait cette raideur? Parce que c'est quand même quelqu'un de très droit, de très rectiligne.
C'est comme ça qu'il est interprété, en tout cas.
En tout cas, c'est comme ça. Le sentiment que ça donne, c'est ça. Et c'est vrai que le film, le récit, est jalonné de bribes, de textes, d'extraits de son essai le plus connu, Les damnés de la Terre, qui, en plus, résonne d'une façon quand même, alors, avec une acuité par rapport à aujourd'hui, je trouve. En tout cas, là, on comprend qu'il y a une pensée extrêmement moderne. Et c'est vrai que le film est un peu scolaire, un peu engoncé, je dirais. Mais malgré tout, moi, je pense qu'il est bienvenu, parce qu'il y a une forme d'honnêteté, et puis que surtout, si ça peut ouvrir et donner envie à des
gens...
Ça
permet de le découvrir.
Au-dehors du cénacle des universitaires ou des experts de la pensée décoloniale, moi, je trouve que c'est toujours bienvenu, et que, voilà, c'est peut-être naïf ce que je dis, mais il me semble que si ça peut donner envie d'aller voir, de mettre son nez dans les essais, qui, en plus, il écrit superbement bien, Fanon, ben, allez-y, quoi.
Charlotte,
c'est un film qui donne envie de lire ses livres, en fait. C'est un peu la seule chose. Effectivement, faire découvrir la personnalité importante, fondamentale de Frantz Fanon au plus grand nombre, c'est formidable. Mais c'est vraiment pas par ce film qu'on va y arriver. Parce que là où je rejoins Jean-Marc, c'est que j'ai l'impression que chacune de ses répliques est citée d'une de ses œuvres. Donc c'est un homme qui parle comme dans un livre, du coup de manière extrêmement sentencieuse. Ça le rend même assez antipathique à certains moments par sa raideur. Et du coup aussi, dommage collatéral, je peux même pas en vouloir au comédien en disant qu'il joue faux, c'est-à-dire avec des tels dialogues à dire c'est impossible, ça ne marche pas. Je crois pas du tout non plus à ce couple. Et là où je vous rejoins, c'est que le personnage de Déborah François est complètement sacrifié, en tout cas dans la première partie du film, et ce récit du coup très monotone, très linéaire, et noyé dans une musique orchestrale qu'on ne comprend pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a un travail de musique qui est assez contrasté avec quand même la platitude de la mise en scène et l'économie assez modeste de sa production. L'ensemble fait que on relève vraiment la musique, et on sait qu'une bonne musique de film, c'est celle qu'on ne relève pas. Donc là, ça ne fonctionne pas. Et malgré l'engagement des comédiens qui là sont... Alors Stanislas Mérard est un peu à part, parce qu'il a un personnage, lui, pour le coup, son talent de comédien fait qu'il s'en empare véritablement et qu'il n'a pas à parler comme dans un livre de Frantz Fanon.
C'est un personnage de fiction, je
donc,
crois que c'est le seul.
Donc ça
en fait,
l'aide beaucoup.
C'est peut-être ça qui fait qu'il s'en distingue.
Et même la plupart du casting, ce sont des amateurs, ce ne sont pas des comédiens professionnels, ce sont les meilleurs du film. Voilà.
Christophe, terminer sur Fanon de Jean-Claude
Barnier.
Oui, c'est
une lente et poussive leçon de morale. Alors je résume, Frantz Fanon est beau, intelligent, élégant, ferme, poli, prévenant, talentueux, cultivé, droit. En plus, il est marié à Déborah François. Il soigne non seulement
courageux,
les victimes des tortures, mais aussi les tortionnaires. D'ailleurs, ses patients l'applaudissent, passez-vous dire, tellement il est extraordinaire. Il me fait penser à un personnage de bande dessinée que je lisais quand j'étais enfant, c'était Docteur Justice.
Ah,
l'homme qui n'a aucun défaut. Alors évidemment, on pourrait faire une version coréenne scène avec Kim Jong-un, ça pourrait être ça, mais c'est dommage, parce que je pense qu'un personnage comme Fanon c'était méritait effectivement un traitement nuancé, méritait une réflexion. Moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est la réflexion, c'est pas le militantisme, et là, malheureusement, c'est un film qui reste dans le manichéisme et qui ne sort pas d'un militantisme qui bride son sujet, je trouve.
Mais comme Ariane le disait, ça peut permettre.
Peut-être.
Ah, en tout cas, c'est ça, il faut le mettre au crédit du film. C'est formidable que le film existe pour ça.
Quoi, ou très peu.
C'est la première fiction qui est dédiée à Fanon, en tout cas. Après Fanon de Jean-Claude Barny, donc, on termine avec un thriller intitulé The Amateur. C'est le deuxième long métrage de James Hawes après le succès de Une vie avec Anthony Hopkins. Et alors ici, la promesse du film est dans son titre. Comment un modeste amateur va se transformer en héros vengeur alors qu'il n'est pas programmé pour. Il s'appelle Charles Heller, c'est une petite main de la CIA, et après le meurtre de sa femme dans un attentat, il se lance dans une vendetta à travers le monde pour éliminer les coupables, à travers le monde alors que, quel budget, je ne sais pas, mais en tout cas à travers le monde, pour éliminer les coupables de l'assassinat de sa femme, un à un. Comment ? Grâce à sa maîtrise des explosifs, et grâce à sa maîtrise des techniques numériques de surveillance, parce que le film nous plonge dans une société de l'ultra-surveillance. L'amateur est joué par Rami Malek, oscarisé pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, et déjà informaticien virtuose dans la série Mister Robot. Vie amateur est la deuxième version filmique du best-seller d'espionnage de Robert Little, la première étant sortie en 1981, alors... Cette version de 2025, que vaut-elle selon toi, Charlotte ?
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle repose sur vraiment tout le canevas et tous les ressorts archi-classiques du thriller d'action. Ça coche toutes les cases, à savoir le mec ordinaire plongé dans une situation extraordinaire, le mec seul et honnête, intègre face à un système corrompu, et comment ta douleur personnelle va être transcendée, en tout cas, moteur de courage, on va dire, pour la vengeance. Tout ça, on le connaît par cœur. Donc, il y a aucune surprise, mais aucune surprise. La seule surprise qu'on peut avoir du film, c'est comment il va se venger. C'est qu'est-ce qu'il va trouver comme truc pour éliminer les uns après les autres les terroristes.
Quelques-uns des éléments étant d'ailleurs dans la bande-annonce.
Voilà, en plus, c'est dans la bande-annonce. Et donc, finalement, c'est assez jouissif parce qu'on sait ce qui va se passer. Ça se passe comme ça, mais il y a quand même toujours une petite surprise sur qui a une longueur d'avance sur qui, sur la manière dont il va exécuter sa vengeance. Et moi, je boude pas du tout mon plaisir d'emboîter le pas de Rami Malek, qui a quand même, qui est chouette, quoi. C'est dans sa douleur, tout seul, asocial, avec son grand manteau. On n'y croit pas deux secondes, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Parce que on parle d'un mec ordinaire, mais enfin, on est d'accord que tout le monde n'est pas informaticien à la CIA, capable de détourner un sous-marin nucléaire. Hein. Enfin, en tout cas. Moi, je peux pas. Bon, lui, il peut, sinon il n'y aurait pas de film. Donc voilà, tout est attendu, mais ça marche, quoi. Voilà, le film donne exactement au spectateur ce pourquoi on est dans la salle, à savoir du divertissement qui nous fait voyager de Londres à Marseille, à Istanbul, des petites rencontres au passage. Rami Malek est super sexy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Aujourd'hui, ça coche tout, quoi. Voilà. Les films et
oui, voilà. On coche tout. Enfin, moi, je boude pas du tout mon plaisir sur ce genre de film qui est vraiment bien fichelé. J'allais dire fichu ou ficelé. Fichelé.
Bien
voilà.
Fichelé. Il est bien fichelé. C'est fichelé. C'est fichu. Ouais. Oui, je rejoins Charlotte. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas une seconde. Alors après, on croit pas une seconde à la véracité de l'histoire. Est-ce qu'on prend du plaisir? Ça, c'est la question que je me pose. C'est vrai que c'est un grand classique, on est dans une espèce d'enfilade de clichés extraordinaires, l'homme seul qui défie la CIA pour rétablir la justice et pour venger sa femme assassinée, enfin on est dans un truc, moi je me souviens des Trois jours du Condor, je me souviens les livres de Robert Ludlum, enfin il y a plein de sujets bien sûr. Déjà il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'il y a une directrice de la CIA intègre. Alors ça sonne très bizarre dans cette période actuelle avec les États-Unis. On a l'impression que c'est une Amérique un peu parallèle. Ensuite le personnage hésite entre Darry Cole et James Bond. Alors, faudrait savoir, il est tantôt d'une extrême maladresse, tantôt c'est un génie de l'électronique, mais comme il alterne entre les deux, du coup, on n'y croit pas du tout. Et donc, du coup, il n'existe pas. Et donc, ça donne à l'arrivée un thriller de série Z à recommander pour les voyages en TGV, quand on n'aime pas lire, bien sûr.
Ariane ?
Oui, non, ce que je trouve rigolo, c'est que vous le présentez comme un personnage ordinaire. Or, en fait, on retrouve tous les trucs du surhomme, sauf que c'est un surhomme atypique. C'est même, je crois, il est même neuroatypique, puisqu'il est sans arrêt en train de reprendre les gens. Quand il y a quelqu'un qui fait de l'humour, il dit j'ai pas compris. Donc on comprend qu'il y a quand même, c'est une espèce de génie HPI, je sais pas quoi.
Oui, il est asocial.
Et en fait, c'est un mec qui est à la fois malingre et malin. Voilà. Et donc qui travaille. Et moi, ce qui m'a un petit peu gênée, alors il y a quand même deux, trois morceaux de bravoure dans le film. Moi, je suis désolée, mais la scène très spectaculaire avec la piscine en verre. Qui est située entre deux immenses buildings
qui est suspendu
en l'air,
sais combien de mètres
et qui évidemment par le biais de cet homme extraordinairement intelligent, astucieux et malin va tout d'un coup se rompre. C'est une scène, je pense que les gens qui viennent pour voir ce genre de film en ont pour leur argent, rien qu'avec ce morceau de bravoure là. Après voilà, ça parle, moi je trouve que c'est un film qui est quand même assez flippant, même sur le fond, sur le contenu, parce qu'on nous parle d'une société, voilà, tu parles d'ultra-surveillance, on nous parle d'un mec qui décide de faire justice lui-même, donc qui refuse et la police et la justice, alors qu'ils sont quand même normalement les garants d'un état de droit. Donc tout ça nous raconte une histoire et un pays et un monde qui, moi, je trouve très flippant de toute façon.
Jean-Marc.
Moi, je dirais même que le film est dégueulasse, en fait. Voilà. Je trouve que la dimension cyberjusticier qui va faire
discutable
la justice lui-même est très chaud. Il y a un côté, le vieux fusil de Robert Enrico, version 3.0, que je trouve vraiment très problématique. L'espèce ou Charles Bronson, le sadisme raffiné avec lequel, il va exécuter tous les assassins de sa femme. Le seul qui gracie, c'est le plus responsable, en plus. Il y a un truc vraiment dans la gestion morale de ce que fait le personnage qui est très problématique. Et on n'est pas non plus dans un film de Sam Peckinpah où il y aurait une réflexion sur la façon dont lui-même devient un tueur et se rapproche des gens qu'il combat. Donc je trouve le film vraiment très sommaire et très bête dans ce qu'il dit de l'autojustice. Par ailleurs, pour le coup, je pense que Christophe aurait dû retitrer le film, parce que la question de l'amateur, elle n'est jamais traitée. C'est-à-dire que tout de suite, c'est un professionnel. Tout de suite, il est aussi bon que les personnages. Voilà. Et donc ça ne va pas du tout. Et puis moi, Rami Malek, effectivement, il y a un truc de présence physique intéressant chez lui, mais je trouve que c'est un assez mauvais acteur. On sent bien que Mr. Robot, c'est vraiment un rôle dans lequel il s'était bien vu. Et là, comme il est producteur du film...
On peut s'attarder quelques secondes sur cette série, parce que dans Mr. Ouais. Robot, il avait justement posé ce personnage du nerd un peu autiste.
Moi, j'ai adoré le détail du hoodie. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui disparaissait derrière sa capuche et qui infiltrait le monde à la fois réel et virtuel. Et c'était un assez beau personnage, parce qu'en plus, c'était un personnage qui avait une part de vulnérabilité, de faiblesse, alors que là, effectivement, il est tiré vers l'agent secret beaucoup plus traditionnel et il perd tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le personnage de Mr.
Titre,
Robot.
Le grand blond avec une chaussure noire, mais raté.
Pas mal.
En tout cas, voilà.
Il n'est pas vraiment grand blond. Ni grand ni blond.
Le marié était en noir.
Comment ?
Le marié était en noir.
Ah, excellent.
Ah, joli.
En tout cas, pour terminer...
Ne dirai pas sur l'informaticien.
En tout cas, pour terminer sur Mr. Robot, voilà, il avait quand même posé une figure un peu iconique. Il a commencé à être reconnu internationalement avec ce rôle.
Et on sent qu'il a été marqué par ce rôle et qu'il a envie de le rejoindre.
Voilà.
Il
est producteur délégué du film, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Ce seront les derniers mots pour The Amateur, de James Hawes, avec Rami Malek et Lawrence Fishburne. C'est l'heure de vos coups de cœur, film, livre ou exposition. Ariane, quel est ton choix ?
Alors moi, je voudrais vous parler d'un premier long-métrage français. Il est signé Hélène Merlin. C'est un film assez beau et assez perturbant aussi, je dois dire. Il s'appelle Cassandre. Et en réalité, je trouve que c'est un film très singulier. D'abord parce qu'il s'empare d'un sujet difficile et peu traité, qui est celui de l'inceste perpétré dans une fratrie. Et ensuite parce qu'il opte pour un ton, mais alors franchement, que je trouve complètement à part. C'est-à-dire que ça oscille entre le conte, décalé et même par moments presque comique, et puis la chronique qui effectivement est dérangée, qui est âpre, qui est oppressante, et justement malaisante. J'insiste sur le film aussi parce que je trouve qu'il y a un casting assez remarquable. La jeune Cassandre, c'est une adolescente de 14 ans, donc, qui va être agressée sexuellement par son frère. Elle est interprétée par Billy Blin, que je trouve impressionnante, et par ailleurs, ses parents, il y a Eric Ruff dans le rôle du père, qui joue un militaire rigide, BCBG, il est assez extraordinaire, et la mère,
Zabou Bretman.
Moi je pense que c'est une de ses compositions les plus extraordinaires. C'est une mère fantasque, extravagante, libertaire et totalement toxique. Le climat incestuel de la famille vient en partie à cause d'elle. Et moi, j'avoue que ce couple qui oscille entre l'extravagance et la monstruosité, ce sont des images, moi, qui me sont restées en tête très longtemps. Donc voilà, le film s'appelle Cassandre, il est signé Hélène Merlin et il est en salle depuis le 2 avril.
Jean-Marc.
Moi, c'est un livre qui s'appelle Mythologie de Deborah Kerr. Son auteur s'appelle Olivier Mudry et c'est aux éditions Marest. Deborah Kerr, c'est une de mes actrices préférées. Vraiment, je l'adore. C'est l'actrice, donc une actrice anglaise qui a fait l'essentiel de sa, enfin, une grande partie de sa carrière à Hollywood et qui joue dans Allez lui de Macaré, dans Tes sympathies de Vincente Minnelli, Les Innocents de Jack Layton. Elle a joué dans quelques-uns des plus beaux films du monde et c'est vraiment une actrice passionnante par sa délicatesse, sa finesse, cette espèce de réserve, mais aussi d'anxiété qui comme ça effleure sa réserve. Et donc Olivier Mudry va à la fois traiter 50 films dans lesquels elle a joué, en analysant la manière dont elle les interprète, et ensuite il retraverse toute sa carrière à travers quelques clés, comme par exemple son rapport au miroir, au dédoublement. Il va analyser chacun des premiers plans où elle apparaît, les films où elle sort de l'ombre, les films où elle apparaît de dos. Il y a quelque chose d'éminemment fétichiste dans la façon dont il parle de Deborah Kerr, mais son fétichisme est extrêmement aimant. Et quand on aime l'analyse sur les acteurs et les actrices, c'est vraiment un livre passionnant.
Tu redonnes le titre ?
Mythologie de Deborah Kerr.
D'Olivier Mudry, paru chez Marest. Christophe.
Ah, moi, c'est un DVD Blu-ray qui vient de sortir. C'est Limonov, la balade de Kirill Srebrennikov.
Qui a fait l'objet d'un débat à cette tribune.
Absolument. C'est un film que je trouve absolument fascinant. C'est un biopic lyrique et romanesque qui est inspiré d'un livre d'Emmanuel Carrère qu'on voit d'ailleurs apparaître dans le film. Et en fait, c'est sur un authentique punk. Et ce que je trouve passionnant, c'est de la mise en perspective de ce spécimen magnifique, de la génération X, celle de la New Wave, celle du punk, sur une musique omniprésente de Lou Reed et du Velvet Underground. Et là, c'est d'autant plus intéressant que le film est réalisé par un des plus grands metteurs en scène de théâtre et d'opéra contemporain, qui est le fameux Kirill Srebrennikov. Et ça confère au film une très grande beauté esthétique, je trouve, parce que je retrouve dans le film des tics de mise en scène qu'on voit dans les pièces de Srebrennikov. Et ça rappelle, à mon avis, l'audace d'un Patrice Chéreau quand il s'est lancé au cinéma. Et je voulais simplement défendre Limonov, la balade.
Sorti en DVD Blu-ray, donc. Charlotte.
Moi, c'est une exposition à la Cinémathèque française consacrée à Wes Anderson. Et Wes Anderson, je crois, il fait quand même partie du club extrêmement fermé des cinéastes dont on reconnaît la signature en 10 secondes de film. Il a une patte visuelle tellement forte, une esthétique tellement marquée qu'on le reconnaît immédiatement. Ça, je trouve ça très touchant.
Il est dans la sélection officielle cannoise de cette année.
Oui, et d'ailleurs, son prochain film, en effet, Le schéma phénicien, sera à nouveau en compétition à Cannes. Donc, son style, on le connaît, c'est une ambiance rétro-vintage, des couleurs extrêmes pop ou pastel, et puis un sens de la symétrie incroyable. Généralement, la plupart de ses cadres étant complètement symétriques et axés sur le centre. Et moi, ces derniers films, j'avoue, m'ont laissé un peu sur le carreau, parce que ça allait très très vite, c'était très beau, mais j'avais envie de m'arrêter, et le montage était tellement rapide que c'en était frustrant. Et bien là, à la Cinémathèque, dans une expo, on peut prendre son temps pour découvrir tout cet univers. On y découvre évidemment des dessins, des croquis, costumes, décors, des tas de choses, et surtout toutes les petites marionnettes de ces films en stop motion. Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens sont faits avec donc des vraies petites marionnettes dont on voit les différentes échelles dans l'expo. Et tenez-vous bien, elles font, je sais pas, 5-6 cm. Parfois, elles sont toutes petites, toutes mimi. C'est incroyable à voir. Et les mini-décors aussi du film. Donc, c'est à voir à la Cinémathèque jusqu'au 27 juillet. Et c'est assez passionnant.
Et pour ma part, je vous propose d'aller au bord de l'Atlantique grâce à un festival qui se tient à Saint-Nazaire la semaine prochaine. Du mardi 22 au dimanche 27 avril, c'est le festival de cinéma Zone Portuaire. Alors depuis 10 ans, le principe est le suivant, établir un pont entre des ports et projeter des films qui racontent ces villes portuaires. L'année dernière, c'était Beyrouth, il y a eu Lisbonne, Dakar ou Athènes, et cette année, Saint-Nazaire se tourne vers Helsinki, avec les œuvres du cinéaste finlandais le plus connu au monde, à savoir Aki Kaurismäki, dont les films seront projetés au cinéma Jacques Tati. Tati Kaurismäki, c'est raccord quand même. Mais il y a aussi la présentation d'une nouvelle génération de réalisatrices et de réalisateurs finlandais. Et en plus des projections, il y a des rencontres, des concerts. Et enfin, la particularité de ce festival, c'est aussi de mettre en avant une discipline sportive. Cette année, c'est le vélo qui est mis à l'honneur, donc, à travers des films et des documentaires. La Finlande, le vélo et l'Atlantique, c'est donc à Saint-Nazaire pour le festival Zone Portuaire du 22 au 27 avril. Marianne Allard, Jean-Marc Lalanne, Christophe Bourseiller, Charlotte Lipinska, merci d'avoir participé à cet épisode un peu particulier du Masque et la Plume. La semaine prochaine, en raison d'un mouvement de grève contre la holding pour l'audiovisuel public, nous serons à nouveau en studio pour débattre de l'actualité littéraire et retour en public au Théâtre de l'Alliance Française pour de nouveaux enregistrements le jeudi 24 avril. David Leprince a réalisé cet épisode du Masque et c'était avec Paola Collin ce matin. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation avec Nani Malray.